Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïn. Jésus ressuscite un enfant. Il réanime un enfant. Pour nous, cela semble extraordinaire, mais en fait, dans la Bible, pas tant que ça, parce qu'on a d'autres exemples d'enfants, de veuves ressuscités. En particulier, il y en a donc deux tout à fait exemplaires dans l'Ancien Testament. L'un, c'est le fils de la veuve de Sarepta, qui est ressuscité par le prophète Élie. Et puis, vous le savez, Élie va être remplacé par son successeur Élisée, et Élisée va faire un miracle exactement semblable. Il va aussi ressusciter le fils d'une veuve, le fils unique d'une veuve, celle qu'on appelle la Tsunamite. Autrement dit, quand Jésus là ressuscite le fils d'une veuve, pour quelqu'un habitué au langage de la Bible, c'est simplement un geste de reconnaissance. Ça veut dire une simple et seule chose, c'est que Jésus est aussi grand que Élie et Élisée. Voilà. Et donc Élie ressuscite le fils d'une veuve, Élisée ressuscite le fils d'une veuve, et Jésus ressuscite le fils d'une veuve, et donc le message est clair, il joue le rôle de Élie et Élisée. Donc Jésus, je vous disais, je fais un signe de reconnaissance, cela montre qu'il est aussi grand qu'Élie et qu'Élisée, et qu'il est, autrement dit, le nouveau prophète. D'ailleurs, si vous avez fait attention au texte, vous remarquerez que c'est bien ce que dit la foule après le miracle. La foule dit « Un grand prophète est venu parmi nous ». Et juste à côté, dans cet évangile de Luc, Jésus dit « Il y a plus grand ici qu'Élie et qu'Élisée, c'est lui-même ». L'idée que Jésus puisse être un prophète est intéressante parce que les Juifs pensaient que Dieu avait envoyé des prophètes à la bonne époque, mais qu'en gros, à partir de l'exil à Babylone, eh bien, il n'y avait plus de prophètes, et que Dieu avait cessé de parler, que le Saint-Esprit ne soufflait plus, et que par conséquent, les Juifs étaient condamnés au rite, c'est-à-dire à l'obéissance et aux pratiques religieuses. Et voilà que donc le message est donné. De nouveau, Dieu parle, de nouveau, un prophète est donné, et c'est Jésus qui est ce prophète. Alors cela est une bonne chose, cela dit on peut rentrer un peu plus en détail là-dedans et se dire, puisqu'il s'agit de faire une référence à un texte de l'Ancien Testament, on peut remarquer qu'il y a des différences notables entre la manière avec laquelle l'enfant de la veuve est ressuscité en un roi ou deux rois et la façon avec laquelle Jésus le fait. D'abord, je vous ai lu le récit de 1 roi 17. J'aurais pu vous lire aussi celui d'Élisée, qui est en 2 rois 4, et je ne l'ai pas lu parce qu'il est encore plus long. La procédure de guérison de l'enfant est extrêmement compliquée. Il faut qu'il fasse des tas de manipulations, il le met dans la pièce, il se couche dessus, il met ses mains dans ses mains, et ensuite il fait des prières, des réclamations. Et finalement, quand l'enfant se réveille, il éternue 7 fois, et puis finalement il se lève. Enfin, tout cela est très long et très compliqué. Et déjà, on voit une première chose, c'est que le récit de la résurrection du fils de la veuve de Naïn est d'une extrême simplicité. Jésus voit la veuve, il est ému de compassion, il touche le cercueil, il dit à l'enfant « Lève-toi » et l'enfant est réveillé. C'est-à-dire que les choses se passent d'une façon beaucoup plus simple. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important et je dirais auquel les réformateurs ont été particulièrement sensibles, de dire que finalement Jésus nous ouvre la voie d'une sorte de religion simplifiée. Le judaïsme, c'est très compliqué. Il y a des tas de rites, il y a des obligations, des observances, des interdictions. Et en fait, la religion de Jésus, je pourrais dire, c'est un judaïsme simplifié ou purifié à l'extrême. Purifié à l'extrême, on enlève les rites, on enlève tous les baratins, les gestes et les machins, on garde simplement la puissance de la parole. « Jeune homme, lève-toi !» Et le jeune homme se lève. La puissance de la parole sans les rites. Et ça, vous disais-je, les réformateurs ont été sensibles à cela et ont voulu, justement, dans, même dans la vie de l'Église, revenir à cette puissance pure de la parole en essayant de dépouiller de toutes les choses compliquées et de tous les rites que les humains ont tendance à ajouter pour prétendre accéder aux grâces du Seigneur. Donc accéder aux grâces du Seigneur, ça n'est pas compliqué. Cela se fait uniquement par la parole et par le contact direct. Parce que oui, ce contact direct, il y a aussi, il n'y a pas que la parole. Il y a aussi ce mouvement de l'âme de Jésus qui est ému par la douleur de la veuve. Et ça, c'est assez touchant aussi. Jésus arrive, et il y a là un verbe assez rare dans Luc. Jésus fut, alors nos traductions classiques disent « ému de compassion », et en fait, le mot grec, c'est bien connu, fait appel aux entrailles. C'est-à-dire, faudrait traduire par « Jésus fut pris aux tripes par ça, pris aux entrailles, bouleversé dans son ventre par cette chose-là ». Et cette idée d'un Christ, justement, touché par la souffrance humaine, est extrêmement frappante, moi, je trouve. Donc oui, certes, il y a une parole, mais vous voyez, ce n'est pas une parole froide, en disant « oui, allez, on va régler le problème ». C'est Jésus, il est bouleversé par la douleur de cette femme. Et donc, vous voyez, les deux choses essentielles, c'est ça. C'est ce Dieu de tendresse, ce Dieu de douceur, ce Dieu de compassion, ce Dieu qui nous comprend. Ce n'est pas un Dieu lointain dans son ciel qui impose des règlements, etc. C'est un Dieu qui vient vers nous et qui simplement est touché par notre situation. Et dans cette situation, il dit une parole qui est une parole de vie. Eh bien voilà, on a là en résumé, je dirais en deux phrases, toute la théologie de l'Évangile. Toute la théologie de l'Évangile. Et ça va même plus loin que ça, parce qu'il y a une autre particularité dans ce texte du Nouveau Testament par rapport à l'Ancien. C'est que vous remarquerez que la veuve de Jésus, là, ne demande rien. À aucun moment, elle ne dit « Seigneur, guéris mon enfant, aie pitié ». Rien. Elle ne demande rien. Et cette veuve, elle n'a aucun mérite. On ne dit pas qu'elle était très pieuse, on ne dit pas qu'elle était formidable, on ne dit pas qu'elle avait la foi. Rien de rien de rien. La veuve n'est, je dirais, pour rien dans cet acte extraordinaire de Jésus, parce que ce texte nous prêche d'une façon la plus radicale qui soit la grâce absolue et seule par laquelle Dieu nous sauve. Si Dieu nous sauve, c'est parce qu'il nous aime. Et si Dieu nous guérit, s'il nous relève, c'est parce qu'il nous aime et parce qu'il a compassion de nous, parce qu'il est ému par nous, tout simplement. Et c'est sans rien à voir avec le fait que nous soyons de bons croyants, que nous soyons justes, que nous ne soyons pas justes, que nous ayons la foi ou pas la foi, ni même que nous ayons su demander. Et ça change tout par rapport à l'Ancien Testament. Parce que la veuve de Sarepta, elle était formidable. Elle avait fait le petit gâteau pour le prophète, elle l'avait accueilli, elle avait cru à la parole, et donc tout va bien. Et la Tsunamite, c'est pareil, elle était épatante aussi, cette femme, elle avait toutes les qualités. Et donc, je dirais, c'est justice que le prophète ait ressuscité son enfant. Mais là, la femme, la veuve de l'Évangile, n'est montrée comme aucune qualité. Et ça, c'est remarquable, d'autant plus que vous regarderez vous-même dans l'Évangile de Luc, au chapitre 7, le récit qui est juste avant, c'est aussi une résurrection d'enfant. C'est le centurion romain, vous savez, qui a son enfant ou son serviteur, on ne sait pas très bien, qui est malade, qui est mort même. Et Jésus, finalement, va le ressusciter ou le guérir. Et il va dire, « Oh, centurion, tu as une foi extraordinaire. Dans tout Israël, je n'ai jamais vu une foi si grande. » Et donc, c'est par la foi du centurion que le fils est guéri. Et sans cesse, d'ailleurs, quand Jésus guérit quelqu'un, il dit, « Ta foi est grande !» Qu'il soit fait comme ta foi, et au nom de ta foi, t'as guéri, etc. Donc, on a toujours l'impression que, finalement, c'est la foi qui sauve, et c'est la foi qui guérit. On enseigne aussi qu'il faut demander à Dieu, et que Dieu pardonne celui qui demande pardon, et que Dieu guérit celui qui implore la guérison. Mais là, la veuve, elle ne demande rien, elle ne prie pas, et on ne nous dit pas un mot de sa foi. Ça, c'est extraordinaire. Et Je veux rétablir quand même un peu, pas faire passer l'Ancien Testament comme une pure religion des mérites et de la rétribution, parce qu'on retrouve là ce Dieu que j'aime, qui est le Dieu Yahvé, vous savez le tétragramme, YHWH, l'Éternel. Ce Dieu qui se révèle à Moïse sur le mont Horeb, au buisson ardent, et ce Dieu qui dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple, et j'ai décidé de le sauver de l'Égypte. » Voilà. Eh bien, ça, c'est le Dieu de la grâce. Dieu ne dit pas sur le buisson ardent, si mon peuple est fidèle, je le sauverai de l'Égypte. Il dit qu'il va le sauver. Il ne lui met aucune condition, aucune contrainte, aucun mérite, aucun jugement, simplement parce que, dit-il, « J'ai vu la misère de mon peuple. » Et donc, c'est ça. C'est ce Dieu qui simplement voit celui qui souffre, qui est bouleversé et qui, du coup, compatit et va sauver parce que lui le décide. Donc, vous voyez qu'il y a dans ce récit quelque chose de, je dirais, un vrai résumé de la théologie de l'Évangile. Et vous disais-je que ce Dieu qui compatit, c'est une vraie bonne nouvelle aussi. C'est une vraie bonne nouvelle. Parce que ce n'est pas un Dieu indifférent, mais c'est un Dieu proche, un Dieu qui partage notre souffrance. Je dirais même, parfois les gens se demandent, mais que fait Dieu quand je suis frappé par le malheur? Que fait Dieu quand je souffre et que je pleure? Eh bien, avant toute chose, Dieu ne fera pas rien, mais avant toute chose, Dieu s'assied pour pleurer avec vous. Et même, on voit que Jésus, il était là dans son cortège joyeux. On dit qu'il avançait avec toute une foule extraordinairement heureuse de la guérison du fils du centenier. Et cette foule joyeuse avec Jésus croise la foule en détresse de ceux qui amènent cet enfant mort au cimetière. Et Jésus se détourne de son cortège joyeux et il va vers le cortège de ceux qui pleurent. Et Jésus va pleurer avec ceux qui pleurent. Et c'est même plus que ça, parce que le texte nous dit, il faut être attentif à tous les détails, on nous dit Jésus toucha le cercueil. Alors ça m'a intrigué parce que je vous ai dit, je n'aime pas trop les gestes, et c'est le seul geste qu'il fasse. Mais ce qui est important, c'est qu'en touchant le cercueil, selon la loi juive, Jésus devient impur. C'était interdit par la loi juive de toucher un cercueil ou un mort. C'est dans les Nombres, chapitre 19, verset 16. « Quiconque aura touché un mort ou un cercueil sera impur. » Jésus, donc, non seulement il va compatir, mais il se mouille, dirais-je, dans la souffrance et dans la douleur de ceux qui souffrent. Et il se fait exclu avec les exclus. Il ne n'est pas le Dieu de loin qui dit « Mon ami, je vais te guérir, etc. » Il va vraiment dans le fond de la misère de ceux qui sont dans la misère. Il accepte de se faire blesser avec le blessé, de pleurer avec celui qui pleure. Et je dirais même qu'il accepte d'aller mourir avec celui qui meurt. Et il transgresse par là, vous disais-je, les lois de l'Église ? Oui, oui, c'est vrai. Eh bien, tant pis pour les lois, tant pis pour la bienséance. Oui, Jésus n'aurait jamais dû faire ça. Enfin, quand même, tu ne vas pas t'abaisser, aller toucher un cercueil, c'est interdit par la loi. Jésus se fiche de la loi, se fiche de la bienséance, se fiche des règles de la société et même de la bonne religion. Et il va accueillir celui qui était exclu, tout simplement. Et il est là pour le partage et l'accueil avant tout, le fait d'aller vers l'autre. Et ça, je crois que c'est essentiel parce que l'Évangile, il n'est pas là pour juger, il n'est pas là pour écraser les gens par des règles canoniques qui excluraient l'un ou l'autre parce qu'ils seraient considérés comme impurs, mais l'Évangile, c'est d'aller vers les gens et d'aller vers tous ceux qui souffrent, qu'ils soient dignes ou indignes. Et ça va même très loin parce qu'on pourrait aller jusqu'au bout de cette logique. Parce que Jésus qui va partager cette impureté avec le mort, avec ceux qui sont dans le deuil, eh bien c'est comme l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde, et la théologie classique nous a dit ça. Jésus vient à nous et il se charge de toute notre misère et il en meurt. Jésus vient, il se charge même de toute notre tristesse et il en meurt sur la croix. Alors, vous disais-je, c'est une bonne chose et est-ce que ça suffit comme bonne nouvelle ? Non, c'est très bien que Dieu compatisse et que Jésus pleure avec nous. Mais évidemment, Jésus meurt sur la croix, mais il ressuscite. Ah, quand même ! C'est-à-dire que Jésus compatit, mais il ressuscite. C'est-à-dire qu'il se charge de toute notre peine et il s'en relève et il reva à la lumière et à la vie et il nous ramène avec lui à la lumière et à la vie. C'est-à-dire qu'il y a là ce chemin de Jésus qui va dans le fond du fond avec nous et qui nous ramène à la lumière. Et ça, on le voit parce que je me suis demandé, toujours l'art de chercher dans les détails, pourquoi on parle de cette ville de Naïn. Sachant en plus qu'il y a on n'en parle jamais de cette ville de Naïn dans la Bible, une ville qui, je ne sais même pas si elle existe. Mais il y a une variante, Naïn ou Naïm. Alors Naïn, on a une ville qui ressemble à ça, au sud de Nazareth aujourd'hui, paraît-il. Mais Naïm, personne, ça n'existe pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que Naïn et Naïm, en hébreu, veulent dire la même chose. Ça veut dire le bonheur. Ça veut dire les délices. Ça veut dire ce qui est charmant, agréable, extraordinaire. Donc voilà, effectivement, Jésus qui va vers Naïm, il va vers les délices. Et il y a là des gens qui sortent des délices. Ceux qui vont dans le malheur, qui sortent de Naïm, la délicieuse. Et Jésus renonce à son délice pour aller avec le cortège des malheureux. Mais vous disais-je, il ne coule pas avec nous, parce qu'il sera victorieux de tout cela, et il nous amène à la victoire avec lui. Et c'est ça, la bonne nouvelle de Pâques. Jésus ressuscite, la belle affaire, tant mieux pour lui, je suis très heureux que Jésus ressuscite, content pour lui. Mais si pour nous c'est une bonne nouvelle, c'est parce que en ressuscitant, il nous ressuscite avec lui. Jésus, je dirais, meurt avec le pécheur. En touchant le cercueil, il se fait impur avec les impurs, il se fait mort avec le mort, et il ressuscite et entraîne avec lui ceux qui s'étaient liés à lui. Et d'ailleurs, ce fils unique, on nous dit que c'est le fils unique de la veuve. Fils unique, mais c'est un des titres du Christ, ça. C'est-à-dire tout à coup, et ça les pères de l'Église l'ont tout de suite noté, c'est curieux, ce fils unique qui meurt et qui ressuscite, il est comme Jésus, le fils unique du Père, qui meurt et qui ressuscitera. Mais en fait, cela étant dit, de quoi s'agit-il exactement dans cette réanimation ? Parce que là, je me suis lancé dans le registre théologique, mais je ne suis pas sûr que ça se soit passé exactement comme ça, ou en tout cas, j'ai du mal à m'identifier au texte parce qu'aujourd'hui, on n'attend pas que Dieu ressuscite les morts physiquement, ni les fils des veuves. Donc, il y a certainement un travail symbolique à faire. Et là encore, j'ai eu beaucoup de mal à le faire, pour tout vous dire, parce que j'étais omnubilé par un livre que j'ai lu qui s'appelle « L'évangile au risque de la psychanalyse » de Françoise Dolto. En effet, Françoise Dolto a proposé une lecture psychanalytique de ce texte qui fonctionne très bien et je dirais trop bien. Donc ça m'a empêché de trouver. Je vous le résume parce que ce n'est pas l'objet de mon discours. Françoise Dolto y voit là-dedans un rapport mère-fils trop fusionnel. D'autant plus qu'il n'y avait pas de père, et donc finalement, la mère et le fils étaient complètement soudés l'un à l'autre, dans une sorte même de rapport d'Édipe absolument insoluble, où le fils joue à la fois le rôle du fils, de l'indispensable de la mère, du mari de substitution, du chef de famille que le père aurait dû être. Et bref, cette situation étouffe l'enfant et le tue. Voilà. Alors Jésus parvient à régler la chose, dit Dolto, par la parole, c'est-à-dire qu'il libère la parole. En effet, il parle à l'enfant. D'abord, le texte nous dit, encore importance du détail, il ordonne au fils, il ordonne. Tiens, Jésus apporte à l'enfant la référence paternelle qui lui manquait, c'est-à-dire la loi. Et Jésus lui donne ce qui peut le structurer. Et ensuite, il lui parle. Il l'appelle jeune homme et non plus enfant, c'est-à-dire qu'il le fait grandir et ensuite, après lui avoir parlé, il le fait parler, puisqu'on nous dit « le mort s'assit et se mit à parler ». Et donc on voit là la force de la parole qui guérit et ensuite Jésus le donne à sa mère comme un autre qu'elle-même. C'est merveilleux, ça marche très bien. C'est très bien, mais ça ne donne aucun sens pour moi. Parce que mis à part d'expliquer qu'il ne faut pas être trop fusionnel avec son fils si on est une mère célibataire, bon oui, don acte, mais ça ne concerne pas forcément grand monde, et on n'a pas besoin de l'évangile pour ça. Alors, pour essayer de trouver le sens que ça peut avoir, tiens, ben, je suis revenu au nom de la ville, Naïm. Je vous ai dit tout à l'heure que ça veut dire charmant, délicieux, et Naïm, belle, charmante, délicieuse, c'est le qualificatif qui est donné à la fiancée du Cantique des Cantiques. Bon. Et aussi au fiancé d'abord. Et donc la femme sort de là, elle sort de Naïm, donc la femme n'est plus la Naïm, c'est-à-dire la délicieuse du Cantique des Cantiques. Alors là, ça se complique. Parce que vous savez que le Cantique des Cantiques, c'est un livre symbolique qui parle de l'amour entre un homme et une femme, qui sont délicieux tous les deux, ils sont Naïm tous les deux. Et en fait, cet homme et cette femme représentent la relation d'amour qui doit exister entre Dieu et l'humanité. Et donc, autrement dit, tout dans la Bible nous montre que nous devons nous unir à Dieu comme une fiancée s'unit à son époux. Jésus est présenté dans le Nouveau Testament comme l'époux. Et Paul écrit « Je vous ai fiancé à un seul époux qui est Jésus-Christ comme des vierges pures ». Et donc ainsi, oui, nous sommes appelés à nous unir à Dieu, à épouser Dieu pour qu'il y ait dans notre vie une fécondité et une descendance. Cette descendance n'est pas nécessairement de faire des enfants comme des lapins ou des moutons ou des vaches, mais de transmettre quelque chose au monde, qu'il y ait quelque chose de nous qui soit donné à d'autres. Voilà. Et ça a été symbolisé aussi, bien sûr, par l'image de la Vierge Marie, qui est fécondée par le Saint-Esprit et qui donne naissance au Christ. Eh bien, nous devons tous, de la même manière, être les époux de Dieu pour donner naissance à une dimension du Christ. Alors là, cette femme, vous disais-je, elle est veuve. Donc, si on garde cette logique du Cantique des Cantiques, ça veut dire qu'elle n'a plus de Dieu dans sa vie. Et elle est exclue, justement, de celle du Cantique des Cantiques qui est appelée la Naïm, c'est-à-dire la délicieuse et la belle. Elle est exclue de cela. Et si elle est veuve, c'est qu'elle n'a plus de Dieu. Autrement dit, elle a perdu la foi. Elle a perdu la foi. Elle est dans une sorte d'égocentrisme total où il n'y a plus qu'elle qui compte. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, sa descendance même meurt, parce que si on est dans l'égoïsme absolu, si on n'a plus d'ouverture vers l'autre, eh bien, on devient dans l'incapacité de transmettre la vie et de donner quoi que ce soit aux autres. Et donc, oui, c'est très logique. Sa capacité à transmettre et à s'épuiser et à donner s'épuise. Elle tombe dans un égoïsme qui la coupe des autres et finalement elle se retrouve là seule et à vivre seulement pour elle-même. C'est ça qui se passe. Alors Jésus va réussir à la remettre d'aplomb. D'abord, il lui dit, la première chose qu'il lui dit, c'est « ne pleure pas ». Ce que j'entends dans le sens de « ne désespère pas, ne te résigne pas, ne renonce pas ». Ne renonce jamais, parce que tu peux vivre toujours. Et quelle que soit ta situation, si isolée que tu te sentes, si perdue que tu te crois être, eh bien tu peux vivre, tu peux trouver du bonheur et tu peux redevenir Naïm. C'est-à-dire tu pourras revenir dans la ville et de nouveau tu pourras redevenir belle et charmante. Cesse de gémir. Je dirais en langage vulgaire, arrête de chialer et avance. Voilà. Il faut y croire. Et combien de fois je n'ai pas dit ça moi-même, je dirais à des gens qui sont frappés par des, même puisqu'on parle de couple là, par des séparations et qui ont l'impression qu'ils ne pourront plus jamais être heureux, et leur dire mais non, il y a un bonheur possible, il y a une vie possible. Et même si on vous annonce une maladie incurable ou quoi que ce soit, Il y a une vie possible, arrête de pleurer, il y a devant toi de la vie, et quel que soit le deuil, il y a devant toi de la vie possible, de la joie possible, des délices possibles et des choses charmantes, merveilleuses, qui feront que tu pourras toi-même d'encore donner la vie. Et donc avance, avance et bats-toi. Et quant à la foule qu'elle a dedans, cette foule qui accompagne la veuve, eh bien, je me suis dit que là aussi, Jésus va arrêter la foule. Parce que certes, il y a du monde autour d'elle, mais cette foule, moi je crois qu'elle est mauvaise. Cette foule, elle est un peu prompte à enterrer l'enfant, à dire qu'il n'y a plus d'espoir. Et ça, c'est vrai que parfois, même autour de nous, il y a une foule de gens bienveillants, bien sûr, qui dans le fond disent « il ne s'en relèvera jamais, il n'y arrivera pas, il est foutu, sa vie est terminée, etc. » Eh bien non. Jésus arrête tous ces mauvais augures et toutes ces foules négatives, il les stoppe. Arrêtez, ça va, laissez-la tranquille. Elle est capable de revenir ensuite dans Naïm la délicieuse. C'est cette mondanité qui l'entraîne dans la mort et finalement hors de la ville. Elle, elle n'a rien demandé du tout. C'est la foule qui s'est saisie de son enfant et qui l'emmène au tombeau. Ça n'est pas elle. Alors Jésus les arrête. En touchant le cercueil, vous disais-je, oui, peut-être que pour s'en sortir, il faut accepter de regarder en face son problème, ça n'est pas faux. Il ne faut pas minimiser nos difficultés, nos problèmes ou nos deuils, il faut les accepter avant toute chose pour pouvoir reconstruire autrement. Et là, Françoise Dolto, dont j'ai dit du mal, a raison, c'est le travail psychanalytique de voir en face les problèmes, c'est déjà bien. Mais Jésus dit, voilà, regarde-toi ton problème avec objectivité et laisse les autres. Ne les laisse pas t'entraîner dans le tourbillon du découragement et de la mort. Parce que, ne pleure pas, tu peux encore apporter quelque chose au monde, quelle que soit ta situation. Alors, Jésus va remettre en vie sa capacité à enfanter et à transmettre par ses mots, je te le dis. C'est ça que Jésus dit à la veuve. Je te le dis, ton fils pourra ressusciter. Et on peut ressusciter si on se met à l'écoute d'une parole et si on se laisse remuer par elle. Et puis vous disais-je, qu'est-ce que Jésus ressuscite? Il ressuscite ce fils unique. Et je vous l'ai dit aussi, ce fils unique, c'est normalement le titre de Jésus, qui est le fils unique. Qui est issu du Père. Ça veut dire que c'est Jésus qui ressuscite en nous ou qui nous ressuscite en ressuscitant le Christ qui est en nous. Enfin, c'est-à-dire que si nous voulons être capables de revivre, il faut commencer par ressusciter ce Fils unique qui est en nous, c'est-à-dire ce Christ qui vit en nous. Et je vous ai dit que cette femme avait un peu perdu la foi, ça doit être ça. Parce qu'il y a là, dans l'Évangile, une parole qui peut réveiller notre foi, qui peut ressusciter ce Christ en nous qui dort, et qui peut relever ce Jésus qui sommeille en nous, cette foi qui semblait ne plus rien pouvoir apporter. Réveiller sa foi, réveiller ce Dieu qui sommeille en nous, c'est cela que Jésus peut nous aider à faire. Et alors, nous pourrons inverser ce mouvement mortifère dans lequel était la veuve, ne plus être dans la foule de ceux qui sortent de la ville et qui vont en courant vers la mort et en nous entraînant avec eux, qui sortent de cette ville de la beauté et des délices pour aller comme un troupeau de moutons de Panurge vers la perdition, mais nous pouvons changer d'équipe et aller dans la foule joyeuse de ceux qui étaient avec Jésus, de ceux qui vont entrer dans Naïm la délicieuse, par la porte, puisqu'on nous dit que ça se passe à côté de la porte qui est le Christ, bien sûr, pour louer Dieu, pour se réjouir et transmettre plein de vie, de joie, de paix, de délices au monde entier. Et cela, comme dit le texte, dans toute la Judée et même au-delà. Et je dirais même pour nous, je dirais que si vous réveillez ce Christ qui est en vous, ce Fils unique qui est en vous, eh bien vous pourrez transmettre des messages de paix, de délices et de vie dans tout votre entourage, dans toute votre famille, dans tous vos cercles d'amis et même au-delà. Et vous pourrez ainsi être comme des porteurs de vie, des prophètes, je dirais pour le monde entier et même au-delà. Et c'est cela auquel nous sommes invités, et c'est aussi ce miracle que Jésus peut faire quand il vient vers nous et qu'effectivement il nous parle et qu'il nous dit « Je te le dis, ton fils vivra » et ainsi il nous fait revenir dans Naïm la délicieuse. Amen.